Ce matin, je vous propose d'ouvrir nos Bibles dans l'Évangile de Luc. On va lire deux textes. Alors l'un est situé dans l'Évangile de Luc, donc au chapitre 17. Nous lirons les versets 7 à 10. Donc Luc 17, versets 7 à 10. Supposons que l'un de vous est un esclave occupé à labourer ou à garder le troupeau. En le voyant rentrer des champs, lui direz-vous « Viens vite, assieds-toi à table. » Ne lui direz-vous pas plutôt « Prépare-moi mon dîner, mets-toi en tenue pour me servir jusqu'à ce que j'ai fini de manger et de boire. Ensuite, tu mangeras et tu boiras à ton tour. » Le maître doit-il une reconnaissance particulière à cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui était commandé? Bien sûr que non. Il en est de même pour vous. Quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé, dites « Nous ne sommes que des esclaves sans mérite particulier ou bien des esclaves inutiles. Nous n'avons fait que notre devoir. » Le deuxième texte de notre étude se trouve dans Jean chapitre 15, versets 9 à 17. Donc Jean 15, 9, 17. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi-même j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi et qu'ainsi votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme moi-même je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus esclaves. Parce qu'un esclave n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Voici ce que je vous commande, aimez-vous les uns les autres. Jusqu'ici notre lecture. Dans le classement des mots mal aimés, celui d'obéissance occupe probablement une très bonne place. Il domine le hit parade depuis très longtemps en compagnie de son petit frère Soumission ou sa petite sœur. Si vous avez des enfants, demandez-leur un petit peu ce qu'ils pensent du mot « obéissance ». Si vous n'en avez pas, pensez vous-même à votre enfance et ce que vous disaient vos parents, quand ils disaient « obéis !» On a une espèce de réaction épidermique où ce simple mot nous donne envie de faire précisément l'inverse. Pourtant, la Bible elle nous parle abondamment de ce mot d'obéissance et elle le considère avec beaucoup de valeur. Dans un passage de la Bible que l'on trouve en 1 Samuel au chapitre 15, versets 22 et 23, il est dit que l'obéissance est préférable au sacrifice et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Le prophète, donc, qui dit ces paroles, poursuit en disant, écoutez bien, car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination et la désobéissance est aussi grave que le péché d'idolâtrie. Alors, quand on connaît l'aversion de Dieu pour tout ce qui était l'idolâtrie et la divination, que ça a été même une cause de tous les problèmes qu'Israël a connus, quand on considère ça, on se dit à quel point la désobéissance et l'insoumission sont graves à ses yeux. Et dans le contexte de cette lecture, qui était adressée prioritairement au roi Saül, on sait que le roi a perdu la royauté précisément parce qu'il avait désobéi à un ordre de Dieu en préférant suivre ses propres opinions. Alors, vous l'aurez compris, ce matin, on va parler d'un sujet un peu difficile, qui est celui de l'obéissance. Et donc, on va prendre comme appui ce texte de Luc 17 qu'on a lu et de Jean 15. On va découper ce message en deux parties distinctes, d'une durée décroissante en Dieu, d'une durée décroissante. Premièrement, nous verrons l'obéissance. Nous allons l'étudier sous le prisme de la condition normale de l'esclave. Deuxièmement, nous verrons que l'obéissance est une preuve de notre amour envers Jésus-Christ. Alors, l'obéissance comme condition normale de l'esclave. Peut-être vous l'aurez remarqué dans la lecture de ce matin, à 5 reprises, le mot « esclave » a été prononcé. Pourtant, sauf si vous lisez dans la version Darby, vous aurez le mot « serviteur » qui sera utilisé. Toutes les versions, en langue française et pas seulement, utilisent le mot « serviteur ». C'est assez surprenant parce que serviteur ou esclave, vous en conviendrez, c'est pas tout à fait la même chose. Le serviteur est un employé, il est payé pour son service, hein, et si sa situation ne lui convient pas, à un moment donné, il s'en va. Quant à l'esclave, lui, il se trouve sous la domination d'un maître, et sauf exception, il n'a pas choisi ce statut. Il ne peut pas partir, il ne peut pas réclamer un salaire particulier, il n'y a pas de convention collective pour les esclaves. Sa seule raison d'être, c'est d'être aux ordres de son maître. Point. Donc on peut dire d'une certaine façon que serviteur désigne une fonction, tandis que esclave désigne une relation. Je ne sais pas si vous saisissez la nuance, mais en tout cas, elle est assez conséquente. Alors, tout de suite se pose la question, mais alors, serviteur ou esclave, qui dit vrai ? Il nous faut donc remonter dans le texte original pour savoir précisément si nous parlons des serviteurs ou d'esclaves. Et le texte en grec utilise un mot qui est celui de doulos. Et doulos a un seul sens, sans ambiguïté, qui signifie bien esclave, et pas serviteur. Il y a des termes spécifiques pour le mot serviteur. Alors pourquoi nos versions utilisent-elles le mot serviteur plutôt que esclave ? Probablement, il y a une louable intention hein, de la part des traducteurs de ne pas choquer le lecteur. C'est vrai que ce mot d'esclave est un peu choquant. Mais en procédant de la sorte, en fait, je pense qu'elles nous induisent en erreur sur un des aspects de la vie chrétienne en préférant l'utilisation de ce mot serviteur plutôt que d'esclave. Dans le chapitre, le passage qu'on a lu tout à l'heure en Luc 17, Jésus dit clairement à ses disciples, « Quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé, dites, nous ne sommes que des esclaves sans mérite particulier. » Et là, il utilise bien ce mot « esclave » pour désigner une relation à Christ, à lui-même. Est-ce que c'est une exception ? Est-ce que dans la Bible, il n'y a que ce passage qui nous parle de notre relation à Christ comme dans une relation d'esclavage ? Eh bien non, en fait, c'est assez abondant finalement, et c'est utilisé de manière récurrente par les apôtres eux-mêmes. Je vous donne quelques exemples. Vous n'êtes pas obligé de chercher. Dans le livre de Philippiens, chapitre 1, verset 1, Paul dit, il commence sa lettre en disant « Paul et Timothée, esclaves de Jésus-Christ ». Colossiens 1,7, Épaphras, mon bien-aimé compagnon de co-esclavage. Jacques 1,1, le frère de Jésus se décrit comme esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. 2 Pierre 1,1, Simon-Pierre, esclave et apôtre de Jésus-Christ. 2 Timothée 2,24, Paul appelle les pasteurs esclaves du Seigneur. Mamie, bon courage. Mais ce titre n'est pas réservé aux seules personnes qui sont dans le ministère. Parce qu'on pourrait dire, après tout, ok, Paul et les apôtres se nomment eux-mêmes esclaves, mais peut-être que c'est réservé aux apôtres ou ceux qui ont une charge particulière. Mais en fait, non. Ça s'adresse de manière plus générale à tous les chrétiens. Je vous donne encore deux exemples. 1 Pierre 2,16. Pierre s'adresse aux chrétiens et il dit « Vous êtes des esclaves de Dieu ». 1 Corinthiens 7,22. « L'homme libre que le Seigneur a appelé est un esclave ». Christ. Plus étonnant encore, dans le ciel, en Apocalypse chapitre 22, verset 2, il est dit que ses esclaves, c'est-à-dire les élus, hein, les chrétiens, lui rendront un culte. Il est là question du contexte dans le ciel où nous louons l'agneau en tant qu'esclaves. Plus étonnant encore, et je termine là-dessus, la parole nous dit que Jésus lui-même, pendant son ministère terrestre, est devenu esclave. Je lis dans Philippiens chapitre 2, verset 27, « Jésus s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition de l'esclave. » Alors, reconnaissons-le tout de suite, le mot d'esclave chez nous n'évoque pas quelque chose de très positif. Je ne pense pas me tromper en disant cela. Et à juste titre, hein, d'ailleurs, quand nous regardons l'histoire dans son ensemble, nous voyons à quel point l'esclavage a toujours été un rapport de domination de l'homme sur l'homme, un rapport même de négation hein, de l'humanité qui se trouvait en situation d'esclavage. Nous voyons dans la Bible l'exemple des Hébreux qui sont sous l'oppression des Égyptiens. Nous voyons à l'époque même de Jésus, les Romains hein, qui avaient des esclaves en nombre. Et la loi de l'époque mettait l'esclave au même rang que l'objet inanimé. Voilà. Vous avez un esclave ou une pelle, c'est la même chose. Donc, vous cassez votre pelle en deux, c'est votre problème. Vous tuez votre esclave, il n'y a pas de souci non plus. Voilà. On ne viendra pas vous embêter pour ça. Ça nous montre bien à quel point, vraiment, l'esclave n'avait aucun droit, il était considéré comme un sous-homme. L'histoire de l'esclavage en Amérique aussi est là pour nous rappeler que c'est des circonstances extrêmement dures et tragiques. Alors tout ça nous interpelle face à ces exemples historiques. Pourquoi est-ce que la Bible, et le Nouveau Testament en particulier, utilisent si souvent le terme d'esclave pour désigner notre relation en tant que chrétien à Jésus-Christ? D'abord, je pense qu'il faut bien se garder de plaquer une réalité humaine avec une réalité spirituelle, divine. L'esclavagiste est un tyran, dans la majorité des cas. Mais dans le cas de Jésus-Christ, il n'y a pas chez lui d'abus, de désir d'imposer, écraser les autres. Il dit au contraire, « Prenez mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Voilà le maître que nous servons. Tout ce que Jésus demande, et même tout ce qu'il ordonne, est bon, fondamentalement, juste, parfait. Si nous sommes persuadés du caractère fondamentalement parfait de notre Seigneur Jésus-Christ, alors nous comprenons mieux pourquoi les auteurs du Nouveau Testament utilisent sans gêne particulier ce terme d'esclave pour désigner leur propre relation à Jésus-Christ. Mais il y a aussi deux autres raisons que je voudrais un peu explorer avec vous qui éclairent ce choix de l'utilisation du terme esclave. D'abord, il y a l'idée de rachat. La Bible déclare sans ambiguïté que l'homme, par nature, n'est pas libre. Il est, pour le coup, esclave. Et là-dessus, on a peut-être un peu plus de facilité à l'accepter. Si nous sommes chrétiens, esclaves de Satan, esclaves du monde, esclaves de nos propres désirs, esclaves, pris, enchaînés. Et pour le sauver de cet état infâme, hein, Christ a payé le prix du rachat. Non pas avec de l'or et de l'argent, mais avec son propre sang, en payant de sa propre vie. Il y a un texte intéressant dans 1 Corinthiens 6, c'est versets 19 et 20, qui dit « Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. » Et dans cette idée de rachat, il y a cette idée de racheter des gens qui étaient sous l'esclavage et la domination de Satan pour les faire arriver, les amener dans sa maison. Jésus dit dans le texte qu'on a lu, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. » Imaginez-vous que nous étions, avant notre conversion, comme sur le marché des esclaves, puisque les choses se passaient ainsi à l'époque. Vous êtes donc exposé, enchaîné, et puis il y a quelqu'un qui passe et qui dit « Je prends celui-là, je prends celui-là, Je prends celui-là. Spirituellement, ça veut dire que sur le marché de l'esclavage spirituel, Jésus-Christ est venu et dit, je prends celui-là, 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 celui-là. Je le rachète par mon sang. Et je le libère de ses chaînes pour l'amener avec moi. Il sera mon esclave, mais ça sera fondamentalement différent. Deuxièmement, dans l'idée d'esclavage, il y a évidemment l'idée de soumission. Maintes et maintes fois, nous trouvons dans la Bible cet appel à l'obéissance qui est la marque, bien sûr, de l'esclave. Quand on lit ce texte de Luc 17, je suis frappé par le côté normal, en fait, du service. On nous raconte l'histoire d'un esclave qui est au champ ou qui garde des bêtes. Voilà, il rentre de sa journée de service, il se prépare pour servir son maître. Probablement, il prend une douche avant parce que ça ne va pas sentir très bon. Il met son tablier, il commence à donner à manger à son maître. Puis quand son maître a mangé et bu, enfin, lui s'installe, il mange, il boit. Voilà, une histoire tout à fait banale. Et le texte nous dit, le maître doit-il une reconnaissance particulière à cet esclave parce qu'il a fait ce qu'il était commandé? Bah, bien sûr que non. Si vous travaillez, vous allez dans votre entreprise le matin, est-ce que votre chef vous doit une reconnaissance particulière parce que vous êtes là à votre bureau? Bah non, c'est normal. Moi, on m'a jamais dit, ah Clément, merci beaucoup d'être là à ton travail ce matin, c'est vraiment super, c'est vraiment merci. Bah ok, bah, voilà, mais je suis là, c'est normal. Et bien voilà, c'est pareil dans cette idée d'obéissance et d'esclavage. On est là au service de Christ et ça semble quelque chose de tout à fait ordinaire, élémentaire même, j'ai envie de dire. Et même que l'inverse serait inconvenant. D'ailleurs, quand on dit, on appelle Seigneur hein, dans nos prières, on a chanté quelques chants à ce sujet, inconsciemment ou pas, en fait, on est en train d'exprimer et de reconnaître notre statut d'esclave qui attend les ordres de son maître. Alors, finalement, être esclave de Jésus-Christ, ça change quoi ? Ça change au moins deux choses, certainement plus, mais au moins deux. La première, c'est qu'elle nous maintient dans un état d'humilité. Nous sommes esclaves au service de Jésus-Christ, nous ne faisons que notre devoir, et il n'y a rien d'exceptionnel en cela. Vous avez en face de vous, qui vous parle, un esclave inutile. Voilà, c'est dit. Tout de suite, ça met dans une position qui nous empêche, un certain esprit d'orgueil. Et cet esclave inutile, j'aime bien hein, le mot d'inutile, en fait, c'est le même terme qui est utilisé dans la parabole des talents, vous savez, ce troisième serviteur là qui cache son trésor. Et à la fin de l'histoire, le maître lui dit, mais mauvais fidèle serviteur, il lui dit, t'étais un serviteur inutile, t'as rien fait. Ah, c'est le même mot qui est utilisé là dans ce texte de Luc 17. Ça change aussi une deuxième chose. Dans le contexte chrétien et même évangélique, on entend parfois, même assez souvent, qu'il faut suivre les désirs de notre cœur. En gros, je prie parce que j'ai envie de prier. Ou bien j'aime ou je pardonne mon prochain parce que je me sens poussé à l'aimer ou à le pardonner. Je respecte mon président parce qu'il mérite mon approbation. Je prends telle décision importante dans ma vie parce que mon cœur est en paix, etc. En gros, on peut dire, pour résumer, si j'ai envie, je fais. Si je n'ai pas envie, je ne fais pas. Quand on raisonne de cette façon, en fait, on met le moteur de la décision au niveau des sentiments qui poussent ou non à agir dans un sens ou dans l'autre. Et permettez-moi d'affirmer qu'il s'agit là d'un des mensonges de notre temps le plus anti-biblique qu'il soit. Par contre, on l'entend à longueur de temps dans les films hollywoodiens. Hein, « Suis ton cœur », c'est là où se trouve la sagesse, la vérité, etc. La parole, au contraire, elle nous ordonne de prier. Elle nous ordonne d'aimer notre prochain et de pardonner. Elle nous ordonne de respecter tout homme et notamment nos autorités. Elle nous ordonne de prendre des décisions qui soient non pas en fonction de ce que notre cœur nous dit, mais en fonction de ce qui est juste, moral et plaisant à Dieu. Voilà ce qui devrait motiver nos décisions. Et ce n'est pas une option. Ce n'est pas notre cœur qui décide comme s'il était paré, vous savez, de toutes les vertus, qu'il aurait connaissance de toute la perfection et que tout ce que notre cœur nous dit de faire serait fondamentalement juste et bon. Non, absolument pas. Notre cœur, et nous le savons bien, si nous avons un minimum d'honnêteté avec nous-mêmes, notre cœur est complexe, il est changeant, nos sentiments sont subjectifs, un jour ceci, demain autre chose. Si nous agissons ainsi, on place notre désir ou notre absence de désir au-dessus de la volonté divine. Et cela est grave, mes amis, ça s'appelle de la désobéissance. L'esclave, il est attaché aux ordres de son maître et il obéit sans contester, même si ça ne lui plaît pas, et même jusqu'à la mort, s'il le faut, parce que telle est sa vocation. Prenons l'exemple de Jésus. Comment a-t-il agi ? Vous imaginez, il est au jardin de Gethsémané, là, il sait que son heure va arriver. Il connaît l'avenir, il sait parfaitement comment ça va se dérouler, il a tout le scénario dans sa tête. Vous imaginez s'il avait suivi son feeling dans le jardin de Gethsémané ? Avait-il envie d'aller mourir de la façon la plus cruelle qui soit, d'être humilié par les hommes ? Certainement pas. Cette perspective était même tellement douloureuse, angoissante pour lui, que le texte nous dit qu'il y avait des gouttes de sang qui tombaient par terre. Tellement il était angoissé par cette perspective. Et je dis heureusement, heureusement pour nous, que Jésus n'a pas dit oh, « Je la sens pas trop cette affaire. Peut-être que je vais pas y aller finalement, parce que là, ça va être compliqué. » Au contraire, il a dit « Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe, parce que c'est une coupe de souffrance. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Jésus lui-même s'est abaissé à la volonté de son Père. Il a soumis sa volonté à celle du Père céleste. Il a accepté en quelque sorte d'endosser la condition de l'esclave. Alors, si Jésus a été jusqu'à cet état, pourquoi est-ce que nous, chrétiens du 21e siècle, on aurait la prétention de vouloir soumettre la volonté de Dieu à notre propre volonté? Soyons bien sûr qu'une obéissance, même si elle est hésitante, même si elle nous coûte, même si nos sentiments ne sont pas là du tout, cette obéissance, elle sera toujours préférable à la désobéissance. Dans le même temps, on sait bien, même si on est sauvé, chrétien, notre chair reste faible. Idéalement, dans un monde parfait, notre volonté, nos actes seraient toujours systématiquement alignés sur celle de notre Seigneur. L'obéissance, mes amis, c'est un long chemin. C'est un chemin qui est fait de chutes, qui est fait de relèvements, qui est fait d'hésitations, parfois de stops. Et je dois vous dire une chose, c'est que moi qui prêche devant vous ce matin, je me suis humilié devant le Seigneur de si souvent ne pas obéir à ses lois. Je ne peux à aucun moment prétendre être meilleur que vous dans ce chemin de l'obéissance. Cette obéissance, elle rejoint de manière plus générale cette idée de sanctification. Hein. C'est un processus. Ceci dit, le processus n'enlève rien, bien sûr, à la nécessité de vouloir tendre de plus en plus vers cet objectif. Alors, si vous luttez pour obéir, dites-vous que quelque part c'est normal. C'est même un signe positif, parce que ça montre une vitalité spirituelle qui cherche à aller toujours plus vers ce que la parole nous invite à faire. Si vous ne luttez pas pour obéir, alors peut-être vous êtes mort ou endormi spirituellement. Mais si vous luttez, dites-vous que vous n'êtes pas seul dans ce combat. Jésus ne nous a pas simplement dit « Bon, allez les gars, vous êtes mes esclaves, obéissez-moi, bon courage et à la prochaine. » Non, non, non. Jamais on n'aurait pu, sinon. Mais nous avons le Saint-Esprit qui est en nous. Nous avons le Saint-Esprit qui lutte à nos côtés. Le Seigneur qui nous soutient quand on lui demande, quand on le prie d'avoir la force pour obéir. Il ne nous laisse pas seuls dans ce combat. Il est avec nous. Et je voudrais là vous donner un petit témoignage personnel. À l'époque où j'étais étudiant en prépa, il y avait une fille dans ma classe qui était une fille un petit peu particulière, dirons-nous. Sa façon d'être, son comportement, et c'était une fille qui n'était pas très appréciée du reste du groupe, parfois un peu moquée pour qui elle était, et je dois confesser que moi-même, j'avais parfois tendance à hurler avec les loups, jusqu'à ce que le Seigneur me reprenne dans cette attitude et me dise « Non, tu ne peux pas faire comme les autres. » Ça fait écho à ce que mamie nous disait tout à l'heure, « Si vous êtes chrétien, vous n'êtes pas comme les autres. » J'ai dit « Mais pff, cette fille, dès que je la vois, ça, je n'arrive pas, quoi, c'est pas possible. » Mais bon, le Seigneur me dit « Aime ton prochain. » Alors, j'ai commencé à prier, j'ai dit « Mon Seigneur, voilà, aide-moi à aimer cette fille. » Dans un sens pur, hein, bien sûr. J'ai commencé un jour à lui rendre un service. Voilà, tout bêtement. Ce n'était pas forcément de gaieté de cœur, mais le Seigneur m'a appelé à le faire. Alors, je l'ai fait. Et puis, progressivement, j'ai senti que les choses commençaient à évoluer en moi, que ça devenait de moins en moins difficile, mais que de plus en plus spontanément, je pouvais aller vers cette personne et entretenir une relation qui soit une relation d'amitié, voire d'entraide, et de ne plus être celui qui, au contraire, se moquait d'elle. Vous voyez comment, par un geste d'obéissance, le Seigneur a pu m'amener à obéir à sa volonté, même si au début, effectivement, il en coûtait. Quand on regarde la Bible, c'est aussi encourageant de voir que les grands hommes de Dieu, eux-mêmes, ils ont lutté dans l'obéissance. Hein. Pensez à Moïse. Dieu l'appelle à un destin merveilleux. Tu vas libérer les Hébreux du joug de Pharaon. Waouh, génial, j'y vais, Seigneur. Non, pas du tout. Quoi, moi ? Aller sauver les Hébreux, me confronter à Pharaon ? Non, non, ça ne va pas le faire. Et vous savez comment Moïse a lutté contre Dieu lui-même, hein, comment il a résisté jusqu'à ce qu'il finisse par plier, aussi parce que Dieu lui a dit « Bon, ok, je vais te donner Aaron avec toi. » Mais Moïse, hein, vous voyez comment lui-même a lutté contre l'appel de Dieu. Je vous cite un autre exemple aussi tiré de la vie de Jean Calvin. On connaît ce personnage, hein, en tout cas comme l'un des grands réformateurs du XVIe siècle. Calvin se destinait, c'est un intellectuel, hein, il a 27 ans quand il écrit le premier tome de l'Institution chrétienne. Alors, je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que ça représente. En tout cas, le dernier tome, c'est un truc un peu comme ça qui doit faire grosso modo 1500 pages. Vous voyez un peu la teneur du personnage. Il a 27 ans hein, quand il écrit ça. Et pour lui, la vie est toute tracée. Il se dit « Moi, je vais défendre la cause de la réforme par mes écrits ». Et donc, il se dit, je vais aller à Strasbourg, parce que là-bas, c'est une ville libre, gagnée à la réforme. Je vais étudier auprès des grands maîtres de la réforme, et puis je vais contribuer comme ça à ma manière. Puis un jour, il voyage, il passe par Genève, et c'est juste une étape, hein, Genève. Il se dit, j'y reste une nuit, demain je repars. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y a Guillaume Farel, qui est dans cette ville de Genève. Guillaume Farel est un grand réformateur aussi, qui a été à l'origine de l'implantation de la réforme à Genève. Guillaume Farel, en tant que Calvin et de passage, dit « Tiens, j'ai envie de discuter avec ce jeune homme. » Il a lu l'Institution chrétienne, hein, il connaît un petit peu l'épaisseur du gars, et il se dit « Tiens, on va discuter avec lui dans sa chambre d'hôtel. » Farel rejoint Calvin, il discute, et de plus en plus, Farel se dit « Mais en fait, ce gars-là, c'est lui qu'il me faut pour m'aider à édifier la réforme à Genève. C'est vraiment la bonne personne. » Alors il commence à discuter, il essaie de convaincre Calvin par tout un tas d'arguments. Calvin lui répond par tout un tas d'arguments, lui expliquant que non, il ne peut pas aller à Genève, c'est pas ça sa vocation. Moi, mon but, c'est d'aller à Strasbourg et je vais défendre la réforme par mes écrits. Mais Farel, il est inspiré par Dieu quand il fait cette demande, et voyant qu'il n'arrive pas à convaincre Calvin, alors écoutez bien ce qu'il lui dit à la fin de cette conversation. Tu ne penses qu'à ta tranquillité. Tu ne te soucies que de tes études. Eh bien, au nom du Dieu Tout-Puissant, je t'annonce que si tu ne réponds pas à son appel, il ne bénira pas tes projets. Que Dieu maudisse ton repos. Que Dieu maudisse tes études si, en une si grande nécessité, tu te retires et refuses de donner aide et secours. Farrell parlait là non pas de sa propre autorité, mais vraiment, quelque sorte, poussé par le Saint-Esprit. Calvin le reconnaît lui-même. Il dit dans un des écrits qu'il sentait que la main de Dieu descendait du ciel, qu'elle le saisissait et qu'elle le fixait irrévocablement à la place qu'il était si impatient de quitter. Voilà. Et voilà comment Calvin est devenu le réformateur que l'on connaît à Genève, comment il a pu contribuer d'une manière si puissante, utilisée par Dieu, à structurer et encourager l'Église française qui était à l'époque sous le feu de la persécution. Calvin a eu bien sûr un ministère puissant à Genève, mais pas seulement. Il a beaucoup contribué aussi à aider et encourager les églises françaises qui souffraient beaucoup à cette époque-là. Et cela a été rendu possible parce qu'il a répondu à l'appel de Dieu. Farrell, il conclut cette conversation en disant « Calvin se fit violence et il a plus fait et plus promptement que personne n'eût fait. » Peut-être il y a quelqu'un ici qui résiste à un appel ou qui ne veut pas soumettre à Dieu tel et tel aspect de sa vie. Si c'est le cas, j'aimerais vous encourager ce matin simplement à plier le genou devant la Seigneurie de Jésus-Christ, à vous faire violence, comme disait Farrell, à accepter humblement votre position d'esclave de Jésus-Christ. Et les bénédictions, elles sont nombreuses pour celui ou celle qui accepte de soumettre sa volonté à celle de Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas chrétien, je ne peux que vous encourager à baisser vos armes, rendre vos armes, à cesser de vous prendre pour votre propre Dieu et à donner votre vie à celui qui est pleinement digne de la recevoir. Ce faisant, vous partirez, vous sortirez de l'esclavage de Satan pour être aux ordres de Christ, notre bon et doux Seigneur. Certains peut-être pensent que ce message est légaliste. Peut-être que vous pensez que quand on obéit alors que l'envie n'est pas au rendez-vous, ça c'est du légalisme. Mais cet argument ne tient pas très longtemps face à la parole. C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie de ce message. L'obéissance comme preuve de notre amour. D'abord, soyons clairs sur le sens des mots. Parce que quand on parle de légaliste, c'est un mot qu'on utilise un petit peu à toutes les sauces. Le légaliste obéit à la loi, certes, mais il le fait pour gagner quelque chose, que ce soit son salut, que ce soit l'approbation divine, que ce soit pour essayer d'en retirer un avantage quelconque, l'obéissance à la loi est motivée par de mauvaises intentions. Et effectivement, cette obéissance n'a pas grande valeur aux yeux de Dieu. De même, si notre obéissance à Dieu représente toujours un poids, quelque chose de lourd, je pense qu'il y a certainement matière à s'interroger sur les causes. Peut-être, sans doute, notre relation avec le Seigneur n'est pas en très bonne forme. Peut-être qu'il est temps de revenir à lui, de peut-être lui confesser un péché particulier, lui dire « voilà, j'étais un peu loin de toi ces derniers temps, ça se ressent dans la difficulté que j'ai à t'obéir ». Mais nous savons que le Seigneur ne ferme jamais la porte à celui qui vient à lui. Je vous invite peut-être à reprendre les Bibles dans Jean chapitre 15, puisqu'on va un petit peu plus revoir ce texte. L'obéissance, donc comme preuve de notre amour. Donc, dans Jean 15, versets 10 et 11, il est dit « Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Tout comme moi-même, dit Jésus, j'ai obéi au commandement de mon Père et je demeure dans son amour. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme moi-même je vous ai aimé. Alors, nous obéissons en vertu de notre statut d'esclave de Jésus-Christ, mais aussi parce que nous aimons notre Seigneur Jésus, parce que nous voulons rester, nous voulons demeurer dans son amour. Quand nous faisons des actes d'amour, nous lui obéissons. Et quand nous lui obéissons, nous témoignons de notre amour envers lui. Vous voyez comment ces choses se croisent. Le verset 15, il est intéressant parce que Jésus nous dit « Je ne vous appelle plus esclave, parce qu'un esclave n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon père. » Voilà, vous me dites peut-être, là, je ne comprends plus rien. Il a passé 20 minutes à nous dire qu'on était esclave, et puis maintenant la parole nous dit « Bah, en fait, je ne vous appelle plus esclave. Bon, » alors finalement, on est quoi ? Il faut saisir en fait cette nuance. Il n'y a pas une contradiction hein, dans la parole. Quand Jésus parle à ses apôtres, il leur dit « Je ne vous appelle plus esclave, mais ami. » Il est en train d'introduire une nouveauté. Parce qu'en fait, l'esclave, c'est celui qui obéit sans se poser de questions, point. On me dit de faire, je fais. L'ami, c'est différent. L'ami, il a une relation d'intimité avec son ami. Il est mis au courant des affaires. Vous voyez, c'est ce que Jésus dit. Je vous ai fait part, verset 15, de tout ce que j'ai appris de mon Père. C'est pour ça que je vous appelle mes amis. Et ce qui est assez fort, c'est que la Bible, en fait, nous permet d'avoir la pensée de Jésus-Christ. Nous sommes ses amis. Nous connaissons la pensée du Père. Et le Saint-Esprit qui vit en nous applique cette parole, cette pensée du Père dans notre vie concrète. Nous avons donc en nous l'Esprit du Maître et nous savons ce qu'il veut. Et c'est ça qui nous distingue hein, d'une relation d'esclavage pur où l'esclave fait son travail dans son coin sans être mis au courant, sans relation particulière avec son Maître. Nous sommes à la fois esclaves dans notre devoir d'obéissance mais en même temps amis parce que Jésus-Christ nous fait part de sa pensée que nous sommes en communion avec lui. Alors, l'amitié de Jésus nous est acquise. Hein, c'est ce qu'il dit très clairement. Je ne vous appelle plus esclave, mais ami. Mais en même temps, au verset 12, il dit, verset 14, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alors, sommes-nous des amis par statut ou bien des amis par condition? En fait, je pense que c'est un peu les deux en même temps. Pour mieux saisir ce paradoxe apparent, pensons à quelque chose qui est proche de notre vie courante. Si vous êtes marié, pensez à votre vie conjugale. Ou aussi, vous avez un meilleur ami, voilà. Pensez à cette relation d'amitié. Le lien conjugal, tout comme l'amitié, c'est quelque chose qui est acquis. Voilà. Bonne fois pour toutes. Mais en même temps, si on ne fait rien pour entretenir ce lien, il se distend de plus en plus. Et la relation conjugale ou la relation d'amitié devient de plus en plus quelque chose qui est superficiel et, on va dire, de façade. À l'inverse, un lien amical ou conjugal qui est entretenu par l'écoute, les activités communes, la prière collective, etc., c'est un lien qui se renforce, qui vous fait pénétrer de plus en plus dans la pensée de votre alter ego. Vous le connaissez de plus en plus, vous découvrez des nouvelles facettes de sa personnalité. Vous appréciez de plus en plus telle et telle chose de sa vie que vous ne connaissiez pas avant. Voilà un peu comment ça fonctionne. Et dans notre relation à Jésus-Christ, l'obéissance fonctionne un petit peu comme cet ingrédient essentiel qui nous permet de grandir dans cette amitié avec notre Seigneur Jésus. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je crois que Dieu se plaît à se révéler de plus en plus intimement à celui qui lui témoigne son attachement par l'obéissance. Si vous aimez le Seigneur, montrez-lui par l'obéissance. Si vous voulez grandir dans l'intimité avec lui, obéissez à ses commandements. C'est ce que nous disent en tout cas ces versets de Jean 15. Je vais terminer par la conclusion courte. On a vu donc que le chrétien est appelé esclave de Jésus-Christ. C'est une position qui n'est pas écrasante, mais qui l'oblige à un devoir d'obéissance vis-à-vis de son Seigneur. Cela se traduit par notamment le fait d'aimer notre prochain, peut-être parfois dans certaines circonstances de répondre à un appel particulier. Mais si on finissait là-dessus, ce serait un peu sec, vous en conviendrez. Alors je voudrais terminer sur les fruits de l'obéissance. Finalement, qu'est-ce que ça apporte? Il y en a beaucoup, ces fruits. Hein. On a parlé de l'intimité grandissante avec le Seigneur. On pourrait ajouter la croissance spirituelle. On pourrait dire la sécurité. Quand on obéit à Jésus-Christ, on est mis dans une situation plus de sécurité. On pourrait citer l'assurance grandissante du salut. On pourrait citer l'humilité, etc. Mais il y a un fruit en particulier sur lequel je voudrais mettre le focus pour terminer. Et c'est celui qu'on trouve dans Jean chapitre 15, versets 10 et 11. Si vous voulez bien lire ce texte avec moi. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Tout comme moi-même, j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi et qu'ainsi votre joie soit complète. Jésus était plein de joie quand il obéissait à son Père. Et il veut que cette joie, nous aussi, nous la connaissions. Ce n'est pas une petite joie, hein, ce n'est pas une joie superficielle, c'est une joie qui nous remplit, c'est une joie complète. Hein. Il est dit dans ce verset-là, voilà, afin que la joie qui est la mienne vous remplisse et que votre joie soit complète. Ce mot de complet dans le texte en grec, il peut aussi avoir le sens de remplir à quelque chose qui déborde. Vous voyez. Donc c'est un peu comme si Jésus, on était un gobelet et on prend une grosse louche de tiponche et on met ça dans un gobelet qui déborde et ça nous coule sur les mains. Et c'est ça en fait, un peu cette image de la joie surabondante que Christ veut mettre dans notre cœur quand nous lui obéissons. Voilà le type de joie que Dieu veut mettre dans nos cœurs quand nous sommes attachés à vouloir lui obéir. Est-ce que ça n'en vaut pas la peine? Je pense que oui. Nous allons terminer dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous sommes heureux de pouvoir être appelés tes esclaves parce que nous savons que sous le joug de Jésus-Christ se trouvent toutes sortes de bonté, de joie et d'amour. Merci parce que tu nous as rachetés à grand prix de Satan pour nous faire passer dans ton royaume. Merci parce que, paradoxalement, le fait d'être esclave de toi nous rend libres. Seigneur, fais que dans nos vies de chaque jour, nous puissions appliquer cette parole, tu puisses mettre en nous ce désir de te suivre de plus en plus, de t'obéir même quand cela nous coûte, et d'expérimenter ainsi la joie que tu tiens en réserve pour tous ceux qui veulent se soumettre à toi et progresser de plus en plus dans l'obéissance par l'assistance de ton esprit. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui y obéissent. Amen.